Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Dans l'actualité, il est très largement question de la morale sexuelle de l'Église entre crime et scandale. C'est une toute autre pierre au sujet de l'édifice de pierre que vous apportez, Frédéric Martel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mon camarade sur France Culture puisque vous animez le dimanche de 19h à 20h30 Soft Power, une émission consacrée aux médias. Mais vous avez mené une toute autre enquête depuis 4 ans, laquelle est publiée dans 20 pays simultanément sous le titre en français « Sodoma enquête au cœur du Vatican » et c'est chez Robert Laffont. Et il faut tout d'abord nous dire ce que vous avez cherché à faire au travers de ce livre. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans une enquête sur l'homosexualité au Vatican, Frédéric Martel?
D'abord parce que je pense que la clé d'un certain nombre de faits, de facteurs, de positions qui sont incompréhensibles finalement pour la majorité des gens, y compris d'ailleurs des catholiques, se trouvent expliquées par un secret d'État, parce que le Vatican est un État, un petit État certes, un secret d'État qui joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne croyait et qui affecte tout de la structure et les positions de l'Église. Et ce secret, c'est la très large, la très grande, le très grand pourcentage même s'il est difficile à quantifier, d'homosexuels dans non seulement le Vatican, mais je dirais même le Collège Cardinalis et peut-être même dans les entourages les plus importants des 5 derniers papes.
Est-ce que c'est mal d'être homosexuel, Frédéric Martel?
Bien sûr que c'est pas mal. En plus, moi je les aime bien, je les rencontre, je les ai fréquentés pendant 4 années et je dirais même que pour moi, le fait d'être homosexuel lorsqu'on est un cardinal, un évêque ou un prêtre n'est pas un problème. Ça devrait même être une des possibilités de vie offertes aux ecclésiastiques comme à tout être humain. Et j'ai beaucoup d'empathie en réalité pour ces prêtres, y compris d'ailleurs pour des prêtres qui sont des amis. Et cette empathie est encore plus forte parce que je pense qu'ils sont eux-mêmes victimes d'un secret, d'une sociologie, parce qu'il s'agit d'une sociologie. Et ils sont victimes de ce système et ils essayent d'ailleurs de se débrouiller comme ils peuvent dans quelque chose qui leur est imposé, le célibat, la chasteté, et qui est à l'origine, encore une fois, et qui affecte, encore une fois, la totalité des positions de l'Église.
Mais alors, est-ce que vous n'avez pas peur, Frédéric Martel, en publiant ce livre aujourd'hui, qu'il y ait de la confusion dans certaines cervelles embrumées, alors qu'il y a le scandale de la pédophilie qui touche l'Église, un scandale de harcèlement vis-à-vis donc de certaines bonnes sœurs, de publier ce livre, qu'on fasse en quelque sorte des amalgames? Est-ce qu'il ne faut pas mettre les points sur les i?
D'abord, c'est un livre sérieux, c'est pas un livre de scandale, c'est un livre, c'est 4 années de recherche, c'est une enquête que j'ai menée dans 30 pays, en y allant moi-même, c'est plus de 41 cardinaux que j'ai rencontrés, 1500 personnes, des centaines de prêtres, de nonces, ces fameux diplomates du Vatican, les gardes suisses, etc. L'objectif n'est pas de outer ces prêtres, et d'ailleurs, en réalité, je ne oute aucun prêtre ou cardinaux vivant. Je oute un certain nombre de personnes qui ont déjà été outées par le passé, qui ont été condamnées, ou alors qui sont morts depuis très longtemps, puisqu'il y a une sorte de prescription, disons. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est face à une sociologie. Ce n'est pas Monsieur X ou Monsieur Y qui, pour telle ou telle raison, serait homosexuel. C'est que l'Église, par son fonctionnement, la manière dont elle recrute ses prêtres, la manière dont elle promeut des prêtres pour devenir évêques, et comment les cardinaux choisissent les évêques avec les papes, etc. C'est une sociologie qui mène à une homosexualisation de plus en plus forte à mesure qu'on monte dans la hiérarchie vaticane.
Alors voilà, vous proposez donc une sociologie, en quelque sorte, de la morale sexuelle de l'Église, de la double morale, puisque c'est ce que vous soulignez, Frédéric Martel.
Oui, encore une fois, je ne les juge pas. Il n'y a pas un prêtre dans ce livre que je dénonce, par exemple, pour des abus sexuels qui n'auraient pas déjà été connus du grand public ou la personne n'aurait pas déjà été condamnée. Donc, c'est pas du tout un endroit où je vais aller les dénoncer. Le journaliste Jérôme Cordelier du Point écrit cette phrase auquel j'avais pas pensé. Il dit, Il ne oute pas les prêtres, il oute le Vatican. C'est le système la question, et non pas les individus. Il faut toujours remonter au système.
Comment avez-vous travaillé? Quelles sont en quelque sorte les preuves de ce que vous avancez? Et puis, comment faire aussi pour savoir si quelqu'un est homosexuel dans le cas, par exemple, d'une personne qui serait un prélat décidant d'être un homosexuel abstinent, Frédéric Martel?
Alors d'abord, il y a, quand on dit homosexuel, on a, c'est une formule un peu facile, mais 50 shades of gay. Il y a beaucoup de types d'homosexuels au Vatican, et c'est déjà ça qu'il faut comprendre. Et mon sujet, ce n'est pas, il y a de la prostitution, il y a ce qu'on appelle les chemsex parties, c'est-à-dire des soirées qui ont été, que je révèle, mais qui ont été connues de drogue, de sexe au Vatican. Ok, il y a ça, mais comme partout dans le monde, c'est public, on connaît les noms, les gens ont été mis en prison, donc c'est des faits. Mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est la banalité. Le sujet, c'est aussi ce qu'on appelle des homophiles, c'est-à-dire des gens qui sont homosexuels. Pour moi, ils sont homosexuels puisque c'est une sensibilité, c'est une culture, ça a aussi beaucoup d'effets dans leur vie, mais ils peuvent être tout à fait chastes. Et ces personnes, en fait, vivent, et c'est le cas de beaucoup de cardinaux. Vous savez, on a affaire au collège cardinalis à des gens qui ont souvent plus de 75 ans. J'en ai rencontré un certain nombre qui avaient 95 ans. Donc, par nature, on peut penser que leur sexualité est relativement limitée. Ce qui est important là, c'est que c'est quand même des gens qui sont homosexuels. Et ils viennent d'une culture des années 50. Ils sont encore dans une culture du déni, du secret, de la double vie, où au fond, on ment aux autres et on se ment aussi à soi-même.
Mais alors pourquoi vous révélez la vérité à vous, Frédéric Martel ?
C'est une exigence de vérité qui rejoint celle du pape François. L'Église aujourd'hui est à terre. Il y a des scandales, souvenez-vous l'été qu'on vient de passer, le scandale immense des abus sexuels au Chili, qui concerne des centaines de personnes, de prêtres. Tous les évêques ont démissionné. Deux cardinaux sont aujourd'hui mis en examen au Chili. Le pape lui-même a dit, il était tellement désespéré, il a dit qu'il fallait trouver les racines et les structures qui ont permis que ces événements, je le cite, se produisent et se perpétuent. Au fond, c'est ça que je fais. Il y a le scandale Macari, il y a eu le scandale en Philadelphie, il y a eu le rapport Vigano. L'été a été meurtrier pour l'Église. Il faut en sortir, il faut expliquer ce qui s'est passé. Et donc, d'une certaine manière, je fais ce travail parce que seul quelqu'un qui a vécu sérieusement pendant 4 ans à l'intérieur du système, qui a fréquenté, je réponds ainsi à la question de comment vous avez travaillé, qui a fréquenté ces prêtres régulièrement et qui a vécu avec eux, j'ai vécu au Vatican plusieurs, dans 3 appartements différents, à l'intérieur même de la structure, où on habite avec un cardinal ou un évêque, parce qu'ils ont des appartements immenses et ils vous invitent parce qu'il y a plein de chambres pour loger des amis ou la famille. Et là, le soir, les gens viennent, on dîne ensemble, c'est le voisin qui est l'assistant de l'ancien pape, c'est l'ancien assistant du cardinal secrétaire d'État, etc. On est là, au fond, entre amis et on comprend ce qui se passe.
Et alors, justement, pour préciser les choses, Frédéric Martel, dans cette enquête qui s'intitule Sodoma comme une manière aussi de renvoyer à Gomorra, donc ce livre sur la mafia, comme s'il y avait une omerta sur la sexualité de l'Église. J'ai envie de dire toutes les formes de sexualité, c'est-à-dire donc à la fois donc l'homosexualité, puisque votre enquête est une enquête sur l'homosexualité, comme si en quelque sorte il y avait eu une omerta délibérée et que cette omerta délibérée avait fait en sorte que des gens qui ne voulaient pas qu'on révèle leur identité gay et fermaient les yeux sur d'autres formes donc de sexualité, mais alors là cette fois-ci des crimes, comme s'il y avait donc en quelque sorte un silence qui arrangeait tout le monde.
Oui. Omerta, je reprends ce mot. Si j'appelle ce livre Sodoma, c'est d'abord à cause de la Bible. C'est pas à cause du livre de Roberto Saviano qui s'appelle Gomorra, qui par ailleurs est édité par mon éditeur, à savoir Carlo Feltrinelli en Italie. Donc on a le même éditeur et c'est vrai que ça fait Gomorra et Sodoma. Mais d'abord avant tout, c'est la Bible, hein, la Genèse 19, où la Bible explique qu'au fond, les homosexuels sont punis, la ville de Sodome est détruite parce qu'ils sont homosexuels. On sait aujourd'hui que les archéologues, les spécialistes de la Bible savent que c'est pas ça qui s'est passé. Parce que, en réalité, Sodome, c'est essentiellement un problème, sans doute, d'hospitalité. Et par ailleurs, c'est une ville qui a été détruite probablement. Les archéologues pensent qu'elle a peut-être été détruite, comme d'ailleurs d'autres villes. Il y en a eu 5 au total à cette époque. pour des raisons climatiques, géologiques, etc. On ne peut pas imaginer que c'était une ville homosexuelle parce qu'elle aurait duré plusieurs siècles. On ne peut pas penser qu'une ville survit plusieurs siècles, il n'y a que des homosexuels, etc., etc. Donc on voit bien que la Bible est fondamentalement fausse, puisqu'en fait, cette homosexualité qui est... la Bible dit, enfin surtout le catéchisme dit, intrinsèquement désordonnée, donc va être une sorte de chose horrible. C'est surtout au Moyen-Âge que l'homosexualité se met à être critiquée par un certain nombre de théologiens et par l'Église, donc bien après l'écriture des textes originaux. Mais oui, il y a effectivement une omerta. C'est plus qu'une omerta, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas face à un lobby gay. On n'est pas face à des individus qui seraient organisés. On est en fait face à des milliers de petits placards. Chacun s'est enfermé dans son placard. Alors, il a des protecteurs, des protégés, peut-être des amants, etc. Mais il est tout seul. C'est une sorte de monade, pour prendre un terme un peu philosophique, dans cette espèce de grand rhizome deleuzien où... personne ne sait en fait exactement la sexualité de l'autre. C'est pas, ils sont pas organisés. Ils sont au contraire tous, ils souhaitent tous garder leur petit secret.
Alors, par rapport à la question donc de l'homosexualité dans l'Église et plus spécifiquement au Vatican, Frédéric Martel, la position des derniers papes a varié avec, disons, si l'on prend de Jean-Paul II à François, François étant peut-être le plus permissif, le plus compréhensif. Avec un retour de bâton de la part de la frange la plus conservatrice de l'Église.
La position de l'Église depuis longtemps, et en particulier à partir de Paul VI, est une position très critique et très dure à l'égard de l'homosexualité. Au passage d'ailleurs, beaucoup plus dure à l'égard de l'homosexualité qu'à l'égard des abus sexuels dont on parle très très peu. C'est seulement très tardivement et même, je dirais, dans la deuxième partie du pontificat de Benoît XVI qu'on commence à critiquer. Donc déjà, il y a un vrai problème. Au fond, on confond une relation homosexuelle entre adultes consentants, sans hiérarchie, avec la personne, et une relation qui est de l'ordre de l'abus, du délit et parfois du crime. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette homosexualité massive au niveau du collège cardinaliste et au niveau du Vatican, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fallait que ce soit quelqu'un comme moi qui fasse ce travail-là, parce que un Italien a du mal à écrire sur ça. Un vaticaniste ne peut pas, sinon il perd son job. Un hétérosexuel n'a pas les codes. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, il faut être dedans avec eux, comme eux, partager cette vie pratiquement, je dirais, communautaire pour comprendre et voir que les effets de tout ça sont une source de distorsion de tous les aspects de la vie de l'Église.
Alors effectivement, vous évoquez dans votre livre, Frédéric Martel, votre Guédard, un acronyme, ou plutôt un néologisme constitué donc du terme « gay » et « radar ». Qu'est-ce que ce Guédard, à supposer qu'il existe, vous permet de voir qu'un autre... ne verrait pas, qu'un hétérosexuel ne verrait pas?
Bah d'abord, moi je travaille, je suis un journaliste, à France Culture notamment, vous l'avez répété, je suis sociologue, je suis chercheur, donc je travaille d'abord sur des faits, je travaille sur des documents d'archives, en l'occurrence par exemple énormément d'archives de la CIA et du département d'État dans certains pays comme le Chili ou l'Argentine qui ont été rendus publics récemment, notamment les États-Unis pour se faire pardonner de leur soutien à Pinochet ont donné un grand nombre de documents. C'est des dizaines de milliers de pages que nous avons, dans lesquelles nous avons travaillé. Je ne travaille pas tout seul pour ce livre, c'est mon livre, mais il y a près de 80 chercheurs, traducteurs, fixeurs, assistants dans 30 pays où je suis allé qui ont fait ce travail. Donc ça repose sur une immense documentation, grand nombre de documents, d'archives, de télégrammes diplomatiques, etc.
Enregistrements que vous avez.
Oui, enfin tout simplement, c'est pas des enregistrements secrets. J'ai interviewé 41 cardinaux.
Ils ont accepté 50, de se faire enregistrer.
Ils me parlent et ils me racontent des choses. Je travaille aussi avec 27, je dis bien 27 prêtres gays, ou en tout cas qui, avec moi, me laissent entendre ou me font comprendre qu'ils sont gays, qui vivent à l'intérieur du Vatican et qui ont été, je dirais, des informateurs, un peu des scouts depuis 4 ans, qui m'ont d'ailleurs logé, parfois invité, parlé, qui eux-mêmes voulaient que ces informations sortent. Donc, il y a 4 des plus proches collaborateurs du pape qui m'ont, alors je ne dirais pas encouragé, ce serait exagéré, mais qui m'ont qui savaient sur quoi je travaillais et qui m'ont aidé dans un certain nombre de cas pour rencontrer des gens, pour avoir des informations et qui, d'une certaine manière, sont heureux que ce sujet soit évoqué.
Et justement, dans la manière dont vous l'évoquez, dans la manière dont parfois il est commenté, on entend dire que l'homosexualité au Vatican est une sorte de secret de polichinelle. Il y a par exemple aujourd'hui dans le Figaro un article recensant votre livre où on lit, c'est en partie une forme de secret de polichinelle avec par exemple un certain nombre de choses qui ont été évoquées sur la résignation de Benoît XVI, les liens avec son secrétaire particulier. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet, Frédéric Martel ?
D'abord, C'est le papier de Jean-Marie Guénois dans le Figaro n'est pas une recension puisqu'il a eu le livre hier et il m'a dit je ferai une petite présentation et j'y reviendrai quand j'aurai eu le temps de le lire. Il faut dire que le livre sort jeudi prochain, donc dans une semaine, et que la plupart des journalistes ne l'ont eu qu'il y a quelques jours. Vous l'avez eu un peu en avance, mais c'est très rare. Effectivement, il dit, au fond, tout le monde le savait, c'est un secret de polichinelle. Hier matin, Christine Boutin a tweeté, je la cite, même si c'est douloureux, j'apprécie que la vérité, avec un V majuscule, bien sûr, la vérité, vienne à la lumière. Ça veut dire qu'elle savait ? Elle savait que la majorité des cardinaux étaient homosexuels ? Elle savait que le Vatican était une organisation, au fond, en partie à dominante gay ? Mais pourquoi ils ne l'ont pas dit ? Pourquoi tout ça n'a pas été dit ? Encore une fois, la vie privée des individus ne nous intéresse pas. Mais si le système est gay et si le discours public est homophobe, il y a quand même une hypocrisie, il y a quand même une schizophrénie, il y a quand même une double vie. Et ces trois mots, schizophrénie, double vie, hypocrisie, ce sont les mots du pape François.
Alors justement, on va voir quelles peuvent être les conséquences de cette sociologie du Vatican, de cette morale sexuelle avec l'hypocrisie, si l'on vous suit, Frédéric Martel, ce que vous décrivez dans ce Sodoma, enquête au cœur du Vatican chez Robert Laffont. On va en discuter avec deux très bons connaisseurs du Vatican, Virginie Riva et Henri Tinque, deux journalistes qui connaissent bien ce système. Dans une vingtaine de minutes, on se retrouve donc pour en parler. En attendant, il est 8h sur France Culture. À 8h22, nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Martel. Vous êtes journaliste à France Culture où vous produisez l'émission Soft Power. C'est le dimanche de 19h à 20h30. Une émission qui évoque les médias et la communication. Mais là, c'est tout autre chose que vous évoquez dans Sodoma, enquête au cœur du Vatican, publié aux éditions Robert Laffont. Vous évoquez un système gay en sociologie, on dirait un étau, c'est-à-dire une manière d'être qui pourrait permettre d'expliquer un certain nombre de faits, d'idées, de prises de position et même de scandales. Et là, peut-être un mot, Frédéric Martel, pour que les choses soient très claires sur la manière dont cette présence des gays au Vatican peut expliquer un certain nombre de prises de position ou de silence de l'Église.
Alors d'abord, on est face à une succession d'événements qui sidèrent non seulement l'ensemble des citoyens, mais aussi les catholiques. D'abord les catholiques. Et là, je pense aux 5948 prêtres condamnés ou en cours de procès aux États-Unis. Je pense aux 1870 en Australie, 1670 aux Pays-Bas, etc. Dans tous les pays. Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors évidemment, il n'y a pas de lien entre homosexualité et abus sexuels. Aucun lien. Les abus sexuels sont essentiellement, d'abord et avant tout, dans les familles, dans les écoles. Et le fait d'hétérosexuel, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hétérosexuels que d'homosexuels à travers le monde. En revanche, et c'est là où il faut être très sérieux et très précis, c'est un fait, c'est donc factuel, que en ce qui concerne les abus sexuels de l'Église, ils sont majoritairement, je dirais même très majoritairement, perpétrés sur des garçons ou des jeunes hommes. C'est le cas notamment, c'est en tout cas ce que démontre le rapport de la Conférence des évêques aux États-Unis, 80% ce sont des garçons, les victimes, ou l'enquête Spotlight, 85%. Donc il y a une particularité qui vient bien sûr du fait que les prêtres sont des hommes, il n'y a pas de femmes qui sont prêtres, et qu'on est dans un univers très masculin. C'est d'ailleurs c'est un autre sujet, mais très misogyne. La misogynie est abyssale au Vatican. Il n'y a même pas, les secrétaires sont des hommes. À part les femmes de ménage, il n'y a quasiment pas de femmes. C'est un monde sans femmes au Vatican. Alors quel est le lien? Et c'est ça que j'ai essayé de comprendre depuis longtemps, parce que pour moi, par exemple, le fait qu'un homosexuel protège un prêtre qui abusait d'enfants ou de garçons, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Pourquoi est-ce que vous allez le protéger ? Pourquoi est-ce que vous êtes silencieux ? Et c'est là où il y a deux règles C'est très triste, c'est terrible. La première règle, c'est qu'on a inventé une culture du secret depuis Paul VI pour protéger l'homosexualité massive des cardinaux, des évêques et des prêtres, et que à l'intérieur de cette culture, des comportements d'abus ont eu lieu et ont été protégés par cette culture, alors même que l'objectif n'était pas de protéger cette spécificité. Et puis deuxième point, pardonnez-moi, mais c'est important, le deuxième point, c'est que lorsqu'un évêque, qui dans la très grande majorité des cas, et je pèse mes mots, les évêques qui protègent des abuseurs sont dans la très grande majorité des cas eux-mêmes homosexuels, quand ils protègent quelqu'un, en fait ils ne le protègent pas, ils se protègent eux-mêmes. Ils ont peur que si le scandale arrive, que si on sort du silence, si les médias s'en occupent, s'il y a procès, on risque de découvrir leur propre homosexualité. Et je dirais que ça s'applique partout, y compris en France.
Pour évoquer cette thèse et pour en discuter les tenants et les aboutissants, nous avons convié deux spécialistes du Vatican. Tout d'abord, Henri Tung, vaticaniste, ancien chef de la rubrique religieuse au Monde. Vous êtes l'auteur notamment de La grande peur des catholiques. Et puis Virginie Riva, vous êtes journaliste à Europe 1, ancienne correspondante à Rome et auteur de Ce pape qui dérange, publié en 2017 aux éditions de l'Atelier. Votre point de vue sur cette thèse, la thèse de Frédéric Martel sur la présence massive d'homosexuels au sein du Vatican.
Écoutez, quand j'ai refermé le livre hier soir, parce que je l'ai lu tardivement, j'ai pensé à cette phrase que m'avait dit un prélat, une personne importante du catholicisme français à Rome, qui me disait « Rome, il faut savoir en partir ». Et il évoquait cela au-delà de la douceur de vie à Rome en tant qu'homme d'église sur effectivement les noirceurs qui existent au Vatican. Alors évidemment, n'ayant jamais enquêté directement sur le sujet, j'ai réfléchi, dans ma mémoire j'ai remonté le fil des souvenirs et c'est vrai que j'ai retrouvé dans ce livre qui objective vraiment les choses que j'avais de manière parcellaire en tête avec une très grande ampleur. C'est l'ampleur du phénomène en fait qui m'a vraiment surprise. Après, les choses effectivement sont connues de l'ordre des rumeurs. Vous évoquez un chiffre, les membres de la curie seraient à 80% homosexuels. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a été...
C'est pas un chiffre qui est de moi, c'est une erreur d'un certain nombre de journalistes. Il se trouve qu'il y a quelqu'un, pardon, mais quelqu'un dit ça dans mon livre, je le cite, je pense qu'il sait ce qu'il dit, en tout cas c'est son point de vue, mais c'est pas le mien, il n'y a pas cette phrase dans mon livre.
C'est, Virginie Rivière.
Voilà, effectivement, ce chiffre, c'est quelque chose qui m'a été rapporté plusieurs fois par des hommes d'église également. Vous évoquez ces petits surnoms féminisés qu'on donne à des chefs de dicastère, des membres de la curie. C'est vrai qu'un professeur de théologie éminent, puisque je suivais ses cours à la Grégorienne, un jour, puisqu'on se connaissait bien, me dit « Vous savez, tel chef de dicastère, voilà son surnom. » Un surnom, évidemment, qui faisait comprendre son orientation sexuelle. Donc j'ai retrouvé beaucoup d'indices. Je pense aussi à, vous parlez de misogynie, là je peux en témoigner. C'est vrai que quand on arrive jeune journaliste femme au Vatican, c'est très difficile. On interviewe des cardinaux qui ne vous regardent pas en face alors qu'on est en train de faire une interview radio. On sent une gêne. Donc tout ça, effectivement, c'est quelque chose dont je peux parfaitement témoigner. Un jour, j'étais très surprise puisque un nonce que je connaissais bien veut me faire la bise en terminant l'interview. Et puis je reste un peu interloquée et il me répond, vous savez, Virginie, ici nous aimons beaucoup les hommes, mais ça ne nous empêche pas d'aimer les femmes. Donc c'est vrai qu'en remontant le fil de mes souvenirs, effectivement, j'ai des choses parcellaires. Je n'ai pas enquêté, donc je ne peux pas effectivement prendre la mesure du phénomène. Mais c'est vrai qu'en tant que vaticaniste, je pense qu'on a été à Rome au même moment, cette question de l'homosexualité, elle affleure et elle a vraiment marqué ces années-là du pontificat. Que ça soit dès la renonciation de Benoît XVI, l'existence ou non d'un lobby gay que Benoît XVI a confirmé par la suite, que ça soit...
Confirmé, c'est-à-dire ?
Benoît XVI, dans une interview post-renonciation, a effectivement, dans une interview, je crois que c'est un journal allemand, si je ne me trompe pas, dit qu'il est effectivement a confirmé cette existence d'un lobby gay au Vatican.
Lobby gay, c'est un terme que vous reprendriez, Frédéric Martel ?
Ce que dit le pape, en l'occurrence Benoît XVI, c'est ses dernières conversations. Donc c'est le livre qu'il fait avec le journaliste allemand pour, au fond, faire le bilan de son pontificat, qui a quand même été dramatique, était une tragédie, et dont il démissionne, renonciation, en réalité démission, pour la première fois de l'histoire depuis longtemps. Mais il ne s'agit pas d'un lobby gay. Un lobby gay, ce serait des individus qui seraient homosexuels
entre eux. Disons qu'ils ne plaident pas véritablement en faveur de la cause gay, le Vatican,
surtout,
en tant que...
Surtout, le lobby, ça serait des gens qui se connaissent entre eux, qui s'organisent pour aller vers un objectif. Or, ce qu'on a au Vatican, c'est une très grande communauté de gens qui sont isolés et qui luttent contre leur propre singularité.
Henri Tinck, votre point de vue, vous êtes vaticaniste, vous avez publié un ouvrage intitulé « La grande peur des catholiques » sur ce que vient de dire Frédéric Martel.
Oui, je suis stupéfait par les révélations du livre de Frédéric Martel. Ça fait, je dois l'avouer, 25 ans que je fréquente les murs du Vatican et jamais j'avais soupçonné à ce point l'étendue, l'ampleur, le niveau d'implication de l'homosexualité au Vatican. Pour moi, ce livre est une surprise totale. Et voilà, ma deuxième réaction serait une espèce de dégoût profond, quoi. Comment ces hommes que j'ai fréquentés, que j'ai admirés aux avant-postes de la diplomatie mondiale, que j'ai admirés dans les voyages à l'étranger du pape Jean-Paul II, que j'ai admiré aussi sur le plan littéraire et sur sa francophilie, un pape comme Paul VI. Comment pouvais-je imaginer que cette dimension homosexuelle serait, comme dit, me semble-t-il justement Frédéric Martel, au cœur même du système de pouvoir au Vatican? Je l'avais complètement sous-estimé.
J'imagine que ce qui vous déplaît, c'est la double morale.
Voilà, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie totale, le discours extérieur et les pratiques à l'intérieur. Je suis profondément dégoûté à la lecture de ce livre. Je pense à tous ces prêtres et même ces évêques, ces cardinaux, qui eux vivent dans la chasteté et qui doivent se dire mais c'est pas possible, enfin c'est pas possible qu'on en soit arrivé là. Et beaucoup de catholiques aujourd'hui qui nous écoutent, qui se disent mais est-ce possible que cela soit vrai? Alors on pourra toujours contester les chiffres de Frédéric Martel, 80% de cardinaux homosexuels, personne ne pourra jamais en
trouver la démonstration. Il n'y a pas de chiffrage véritable
la démonstration. On pourra toujours contester que les promotions surtout sur Ratzinger, Benoît XVI, était faite sur le critère de l'homosexualité. Il y a des tas de choses de son livre qu'on ne pourra pas prouver. Il y a beaucoup de ragots. Mais le fond du problème est là, c'est l'hypocrisie complète du système.
Virginie Rivena.
Oui, sur l'hypocrisie, effectivement, c'est vrai que c'est... Quand on termine ce livre, on pense à beaucoup de gens à travers le monde qui vivent difficilement, c'est évident. C'est vrai que le pape François, et pour le coup là, moi j'étais moins surprise, puisque tout son pontificat, ce sont des cris contre cette hypocrisie, les docteurs de la loi, et on sait quand on est à Rome qu'effectivement souvent les plus durs dans la défense de la morale sexuelle sont souvent des gens qui ont eux-mêmes une faille intérieure, si je puis dire. Donc c'est vrai que le pape n'a cessé de dénoncer ça dans les maladies spirituelles de l'Église, notamment à la curie, lorsqu'il fait ses vœux, l'année suivante, vous le dites très bien d'ailleurs dans votre livre. Mais effectivement, peut-être je n'avais pas pris la mesure de, à chaque fois que la question affleurait, que ce soit sur le synode sur la famille, ce retournement qui s'y passe alors que le pape François veut donner des droits pour la première fois, veut donner une reconnaissance des unions homosexuelles, ce retour de bâton, effectivement, que vous expliquez avec votre prisme, on y reviendra.
Effectivement, donc un prisme différent. 8h33 sur France Culture, on continue d'évoquer le livre que Frédéric Martel va publier la semaine prochaine, Sodoma, enquête au cœur du Vatican chez Robert Laffont, où il est question du poids et des homosexuels dans la curie à Rome, au Vatican. Et nous sommes également en compagnie de Virginie Riva et Henri Tinck, de très bons connaisseurs du Vatican. Frédéric Martel, d'où une question finalement. Pourquoi cette double morale? Après tout, s'il y a autant d'homosexuels au sein du Vatican, pourquoi tout simplement ne pas faire un aggiornamento? Après tout, la haine de soi n'est pas une pente naturelle chez l'être humain. Est-ce qu'il y aurait, en quelque sorte, des explications à ce que vous évoquez comme étant une double morale?
Vous avez prononcé le mot haine de soi. C'est d'abord et avant tout de la haine de soi, qui est d'ailleurs quelque chose de classique chez les juifs, chez les arabes, chez les gays, etc. Toutes les minorités ont suscité à la fois peuple élu et peuple, comment dire, c'est très proustien de dire ça, mais peuple de paria. Et on est là-dedans, on est avec des gens, ne l'oublions pas, qui ont souvent 75, 80, 85 ans, donc des gens qui ont grandi, qui ont vécu et qui ont découvert leur je dirais, non-sexualité, puisqu'ils ont choisi la chasteté, dans les années 40, dans les années 50. Donc c'est un autre monde. Pour comprendre le Vatican aujourd'hui, et notamment le Collège Cardinalis, il faut remonter à cette époque-là. C'est-à-dire pas aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne comprend pas souvent. Et pour répondre à votre question, encore une fois, c'est une sociologie. Quand vous êtes dans un petit village italien, mais c'est vrai pour la France, l'Espagne et dans beaucoup de pays, que vous découvrez qu'il y a un problème, vous êtes homosexuel, ou même peut-être vous ne le comprenez pas, mais vous n'avez pas envie de vous marier, vous êtes critiqué pour votre voix, vous avez des comportements bizarres, etc., avec vous-même, au fond, vous êtes homosexuel ou homophile et vous commencez à comprendre qu'il y a un problème. Il est assez classique, il était assez classique dans cette époque-là, de devenir prêtre. Parce que quand vous devenez prêtre, c'est la solution. Votre mère...
La solution, c'est-à-dire?
Au fond, votre mère a compris le secret, elle est très contente. Vos copains qui se moquaient de vous et qui faisaient de mauvaises blagues à l'université ou au lycée, au fond, vous prennent pour un saint. Et vous passez de paria à élu. Vous devenez une sorte de saint et les gens vous respectent. C'est la clé de la plupart des vocations, ne l'oublions pas.
Henri Tinck, votre point de vue à ce sujet?
Oui, je ne suis pas sûr que ce soit la clé principale de la plupart des vocations,
mais c'est l'une des clés.
Et de toute façon, ce que Frédéric nous dit pas quand même, c'est que beaucoup d'efforts sont faits pour endiguer un peu ce fléau dans les séminaires aujourd'hui. Mais la question se pose depuis toujours dans les séminaires ou dans les noviciats. La part de l'homosexualité chez les jeunes qui se dessine à une vie sacerdotale, à une vie religieuse. Mais là, le problème,
c'est le fléau. J'imagine l'hypocrisie.
L'hypocrisie, oui, bien sûr.
Parce que n'oublions pas que c'est illégal. Le problème, quand le pape dit qu'il faudra contrôler les séminaires, enfin en Espagne, il y a une immense polémique, puisque c'est illégal de dire quand on vous prend pas parce que vous êtes homosexuel au séminaire. La loi de l'Église ne s'applique pas dans la majorité des pays. Donc n'oublions pas qu'on est face à quelque chose. Ils sont complètement piégés. Il n'y a pas de solution à ce stade par rapport à ce système.
Parce que alors, dans le cas, par exemple, d'un homosexuel abstinent, Henri Tinck, qui se présenterait donc de la même façon qu'un hétérosexuel qui accepterait d'être chaste avant d'entrer dans les ordres, est-ce qu'il y aurait un problème pour le clergé?
Dans le contexte des séminaires d'aujourd'hui, oui, il y a quand même des règles qui ont été instaurées depuis une quinzaine d'années, notamment en France, et par le biais de la lutte contre la pédophilie, même si les problèmes sont pas les mêmes. Mais l'importance du livre de Frédéric Barthel, c'est pas tellement ce qui se passe dans les séminaires et qu'on sait depuis toujours et qui explique quand même la montée du phénomène.
Ce qui est
important, c'est que c'est au sommet de l'Église qu'existe cette homosexualité. Et ce qui est important, c'est que l'homosexualité qui est refoulée, qui est cachée, se transforme en une espèce d'homophobie doctrinale. C'est ça la nouveauté du livre.
Virginie Riva, parce que l'homosexualité, c'est un enjeu politique au sein du Vatican. Il y a des mouvements. Le pape actuel, le pape François, est contesté. Il est contesté par une frange conservatrice. Et là, il y a une clé politique.
Alors, c'est là où peut-être j'aurais quelques réserves sur votre démarche, parce que c'est vrai que ce livre fera date, on verra sa réception, et je pense que c'est une œuvre vraiment très documentée, très informée, très sérieuse. Ma précaution, c'est plus de me dire, votre problématique est effectivement d'enquêter sur le secret, l'homosexualité dans l'Église, donc forcément vos conclusions aussi sont une réponse à cette problématique. Moi, ma seule réserve, c'est vrai que c'est de dire que sur la fronde, notamment, vous me posiez la question contre le pape François, sur la question de la crise des vocations, vous le liez très fortement à ce qu'on vient de dire, et c'est vrai, il y a de la sublimation dans le fait, quand on est homosexuel, de vouloir devenir prêtre. Ça m'a été confirmé par des directeurs de séminaires. Ça, je suis d'accord avec vous, peut-être le grand public ne le sait pas, mais ça existe, effectivement. Ma question, c'est, est-ce que le prisme de l'homosexualité peut répondre à tout? Moi, je ne crois pas. Je pense que votre livre est fondamental, essentiel. Mais en revanche, sur la fronde, par exemple, contre le pape François, je pense que vous en parlez dans votre livre. Les questions politiques et de justice sociale sont fondamentales. Le pape François est arrivé avec un agenda, une feuille de route que les cardinaux ne lui avaient pas donnée. Il est allé beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Il demande une église pauvre pour les pauvres. Et dans la sociologie des catholiques croyants à travers le monde, et notamment en France, ça heurte énormément les consciences, cette critique de la richesse. Il instaure une révolution de la sobriété. Vous en parlez, ça ne plaît pas, avec des archevêques qui me disent « Bientôt, je pourrai plus mettre mes boutons de manchette. Toutes ces questions-là, justice sociale, immigration, les migrants, quand ils reviennent de Lesbos avec des réfugiés musulmans faisant un pied de nez incroyable à l'Union européenne et à son accord avec la Turquie parce qu'ils ramènent des réfugiés en Europe par des voies légales, sur la question de l'islam, je crois que le prisme de l'homosexualité est fondamental, mais pas nécessaire. Il faut avoir plusieurs points de vue, je crois.
Et oui, est-ce que, Frédéric Martel, est-ce que finalement votre livre ne pourrait pas devenir une arme entre les mains, par exemple, de Monseigneur Vigano, qui est un opposant au pape et qui a dénoncé la présence, je le cite, de réseaux homosexuels au Vatican ?
Effectivement, c'est pas le seul prisme. Il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, mon livre est, c'est pas moi qui le dis, c'est Timothy Radcliffe, par exemple, qui vient de faire un très long papier dans The Tablet, qui est l'ancien patron, grand maître, maître des Dominicains, et qui dit que ce livre est fondamentalement favorable au pape François. Ce n'est pas mon objectif, puisque mon objectif n'est pas de changer l'Église, je l'ai dit. Mais il me paraît essentiel que le cœur de l'attaque, elle l'est, au plus vous êtes homophobe, au plus, sans doute, vous avez une double vie. Franchement, si c'est pas, critiquer plutôt les conservateurs et je dirais l'extrême droite, c'est ça ma vraie cible.
Vous avez rencontré le pape François ?
Non.
Vous avez eu...
Je n'ai pas cherché à le faire parce que...
Des échanges avec lui d'une manière ou d'une autre ?
Aucun échange, non. J'ai eu des échanges avec, et beaucoup d'échanges avec trois ou quatre de ses proches collaborateurs, mais j'ai pas cherché à le faire parce que, d'abord, c'est difficile, objectivement, et puis, voilà.
Et avec le clergé français, puisque tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait un facteur, disons, une clé d'explication dans le scandale de la pédophilie au sein de l'Église et le scandale du silence accompagnant cette pédophilie, il y a, selon vous, Frédéric Martel, une clé d'explication dans ce climat d'hypocrisie sexuelle très large. Et évidemment, il n'y a pas du tout d'amalgame entre la pédophilie et l'homosexualité au sein de votre livre. Qu'est-ce qui s'est passé en France ? Est-ce que ça nous fournit une clé d'explication là aussi ? Parce que on a un scandale également au sein de l'Hexagone.
Cette sociologie, par définition, s'applique partout. Et je dirais qu'en France, comme ailleurs, elle est la clé de lecture d'un grand nombre de dysfonctionnements et de distorsions de la vie de l'Église. Et encore une fois, je pense que, et il ne s'agit pas de citer de noms, et encore une fois, je ne fais pas de outing, je pense que ce système est construit d'une manière qui fait que le silence sur les abus sexuels est en très grande partie liée à une culture du silence, de la double vie dans l'Église. Et la fin des vocations est également liée à ça. Parce que c'est pas le tout de dire il faut les sélectionner, on sait on a moins d'homosexuels dans les séminaires. Mais c'est pour ça qu'il y a plus de prêtres. On a 800 prêtres qui meurent chaque année en France. Il y en a 100 aujourd'hui, à peu près, même pas 100, qui arrivent à rentrer dans l'Église. C'est une Église qui disparaît, il y a plus de prêtres. Pourquoi ? Parce que notamment, c'est pas la seule explication, mais quand vous êtes un jeune homosexuel aujourd'hui, vous avez d'autres options que de devenir prêtre.
Henri Tinck, votre point de vue.
Oui, non, ce point de vue-là me paraît un peu systématique, mais c'est évident que cette homosexualité-là existe dans l'Église de France. Est-ce qu'elle est la cause du silence organisé par les évêques sur les actes pédophiles dans leur diocèse ? Je n'irai pas jusque-là. Quand vous osez écrire, Frédéric, que la France est la fille aînée de la pédophilie, je trouve
non,
que c'est...
J'ai pas écrit ça, mais...
Je trouve que c'est un
peu... Il faut préciser ce que vous avez écrit, Frédéric.
Excessif. Mais il est clair qu'il y a là une clé de lecture d'un certain nombre de protection des abus sexuels commis par des prêtres dans des diocèses. Cette espèce de système « je te tiens par la barbichette » ne dit pas que je protège des prêtres pédophiles, sinon que je révèle que tu es homosexuel. C'est ça la clé de lecture qui peut exister.
On est face à quelque chose d'extrêmement complexe. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais 600 pages, c'est 4 ans de travail, c'est des centaines et des centaines d'interviews dans 30 pays. Il faut regarder tout avec extrêmement de détails. Mais encore une fois, il y a une phrase très belle du pape François, il dit « le carnaval est fini ». Et le carnaval est fini, cette affaire doit être réglée.
Virginie Rivard.
Oui, je veux revenir sur cette question du lien enfin des causes éventuelles qui seraient les mêmes entre le secret sur les abus sexuels et sur le secret des pratiques sexuelles au Vatican, parce que c'est effectivement très délicat. Beaucoup d'homosexuels, dont Mgr Charamza lui-même d'ailleurs, pensent qu'effectivement, comme vous, qu'il y a un lien entre ce secret fait pour protéger les pratiques sexuelles et ce secret. Évidemment, les choses n'ont rien à voir, je le redis, dans un cas il s'agit d'un crime et dans un autre d'une orientation sexuelle. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qu'il y a en commun, c'est le secret. Et le secret pontifical, parce que le secret est partout au Vatican, à la fois dans l'élection dans la chapelle Sixtine, à la fois dans les délibérations de concile, dans le secret professionnel pour progresser au Vatican, il faut être quelqu'un de réservé, et on vous le demande d'être secret. Dans toutes les sphères, dans les archives secrètes, dans les sources de la connaissance, dans l'accès à la connaissance, tout est secret. Ce secret pontifical, il existe depuis des siècles. J'ai appris dans mes recherches qu'il avait été renforcé dans les années 2000, effectivement, sur les questions, au moment où le cardinal Ratzinger et Jean-Paul II font les premières normes de lutte contre les abus sexuels. Ils renforcent le secret pontifical. Ils se réfèrent à une ordonnance de 83 qui était désuète, et ce sont des canonistes qui m'ont expliqué ça. Je pense que c'est pas tellement la question de l'homosexualité, c'est la question du secret qui s'effrite. Votre livre en est le témoignage. Le secret n'est plus tenable nulle part, dans aucune société, dans aucune institution. Votre travail en est la preuve. Il n'était absolument pas possible il y a même une quinzaine d'années. Et c'est plutôt contre ça que le Vatican met en place une réaction de système, je crois.
Alors, oui, je suis absolument d'accord avec ça. C'est le mensonge, c'est aussi ce qu'on appelle le cléricalisme. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on connaissait à l'époque du stalinisme avec le communisme.
Il faut rappeler ce qu'est le cléricalisme et la guerre qu'a
C'est tout simplement, au fond, c'est protéger l'institution plutôt. Et donc, mentir, accepter, on connaît ça depuis Mazarin. Enfin, c'est la raison d'État qui prime sur la vérité.
Est-ce qu'il est possible d'imaginer une évolution profonde, si le carnaval est fini, Frédéric Martel? Est-ce qu'il est possible d'envisager, par exemple, que l'homosexualité soit admise au sein de l'Église? Il faut rappeler qu'un grand historien, John Boswell, a considéré que des unions du même sexe au sein de l'Église avaient été acceptées jusqu'au XIIe ou XIIIe siècle. Il y a débat. Est-ce qu'on peut imaginer que, finalement, cette affaire, ces différents scandales sur l'hypocrisie de l'Église débouchent sur une évolution profonde?
Mon livre, et je dis ça avec une certaine... C'est un livre que je considère d'intérêt général. J'ai fait mon travail, mais ce n'est pas mon objectif de changer l'Église. C'est pour ça que cette question, c'est à Henri Tin qu'il faut la poser. C'est-à-dire que moi, mon travail, ce n'est pas de changer l'Église. C'est juste de raconter, en tant que journaliste et en tant que chercheur, ce qui se passe.
Alors, on va demander une conclusion en un mot à Henri Tin et à Virginie Riva.
Oui, je crois qu'on est à la veille d'une grande révolution dans l'Église. Je crois que le livre de Frédéric Martel, après la crise des abus sexuels dans l'Église, va faire exploser le système. Ce n'est pas possible autrement. Le pape lui-même est parfaitement au courant de ce qui se passe, des pratiques homosexuelles qui existent au plus haut niveau de sa hiérarchie. Donc, voilà. Est-ce que l'homosexualité sera réintégrée dans la doctrine de l'Église? Je ne crois pas. C'est un interdit deux fois, plus que deux fois millénaire. On n'y arrivera pas. Mais en tout cas, les structures, les systèmes vont profondément changer au prix d'une crise très grande au sein de l'Église. Les courants conservateurs vont réagir, mais on ne n'échappera pas à une sorte de révolution interne dans les années à venir.
Virginie, je serais moins optimiste. Je pense que le pape a tenté de renouveler le collège des cardinaux. Il faudra voir le profil de son successeur, mais je serais beaucoup moins optimiste qu'Henri Tin.
Frédéric Martel, Sodoma, enquête au cœur du Vatican, chez Robert Laffont. Le livre est publié mercredi prochain.
Mercredi prochain, oui.